Vous écoutez
RMC. RMC, jusqu'à 20h, Roten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h01 sur RMC, toujours dans Roten sans flamme, intégrale Coupe du Monde. Oui, on est dans la deuxième heure de l'émission, Roten sans flamme. Restez bien avec nous. Si vous arrêtez la première heure, c'est pas bien, on vous le dit tous les jours avec Jean-Louis. Elle est déjà disponible en podcast, alors allez-y, téléchargez, on doit battre des records sur ce mois de décembre, on compte sur vous. Il est plus court ce mois de décembre, mais on compte sur vous parce qu'il y a du débat, il y a des analyses fantastiques de Manu Petit, de Manu Amoros, et puis bien sûr, notre maître à tous, du moins celui qui fait tout ça, qui chapeaute tout ça, c'est Jean-Louis Tour. Jean-Louis, donne-nous le programme de la deuxième heure. Et puis,
on a un trio à 158 sélections en ce moment dans Roten sans flamme. Hein. Ouais. Toutes vos sélections mises bout à bout.
C'est pas moi qui fais augmenter le chiffre.
T'es un peu à la traîne. Ah. Toi, je t'en ai compté 13. Hein.
15.
C'est le chiffre officiel. Hein.
15.
15. Il y a 15. 13 partout.
15 et dernier but sur coup franc direct en match officiel.
Voilà. Vous n'avez pas autant de records, hein, Manu, de Manu.
Oh non, on n'en parle plus de maintenant.
Manu Amoros, il a juste 82 sélections.
Bah oui, et qu'un seul but. Hein.
Et c'était à l'époque où il n'y a pas
autant que Jérôme.
Un seul but, Manu. Mais alors, comment ça s'est
passé?
J'ai souvent frappé le poteau, la barre, à côté. Mais bon.
C'est dingue, Louis, on a plus de buts, c'est fou.
C'était contre qui déjà où tu avais fait cette superbe frappe sur la transversale en Coupe du Monde là?
L'Allemagne en 82.
Oh, là, là. Quel match.
Ah ouais. Ah ouais. Magnifique. Dans cette deuxième heure, messieurs.
Match toi aussi, Manu, contre le Brésil en finale en 98.
Manu Petit, là. Ouais, bien sûr.
Quel but.
Incroyable. Alors que personne courait à ce moment-là, il n'y en avait qu'un
qui courait encore. Contre le Danemark.
C'est pour ça que j'ai marqué d'ailleurs, et plus personne jouait.
Contre le Danemark, il jouait avec les coiffeurs et il leur a dit allez, vous êtes nuls, c'est moi qui prends les choses en main.
Il était entre les coiffeurs et titulaires à ce moment-là, c'était pas encore évident. Hein.
Non, il était titulaire.
Contre le Danemark.
Là, il avait mis Didier Deschamps dans sa poche, Bocossian dans sa poche. Franchement, ils étaient tous au garde à vous, les mecs.
Allez, dans cette deuxième heure, s'il remporte la Coupe du Monde, Messi sera-t-il alors l'égal de Maradona? Hier, l'Argentine s'est relancée avec une victoire probante face à la Pologne, notre futur adversaire. 32-16 pour débattre dans le ring des supporters. On lancera aussi la soirée avec les matchs de 20h. L'Allemagne et l'Espagne jouent leur place en 8e de finale. Costa Rica, Allemagne et Japon, Espagne. Les 4 équipes peuvent se qualifier dans ce groupe. On sera sur les stades d'ici quelques minutes pour les compos d'équipe. Mais tout de suite, messieurs, le Brésil a peur.
Neymar pour le deuxième but.
C'est une catastrophe.
Oh, le petit pont, la frappe, c'est superbe. Oh, Neymar, c'est splendide.
Non, c'est pas possible.
Contre la frappe de Neymar. Et le voilà le but. Et le voilà le but libérateur. Le voilà l'exploit personnel.
Le Brésil, donc, nous on a eu la cuisse de Zidane, eux ils ont la cheville de Neymar. Hier, les médias brésiliens faisaient état d'un pessimisme autour de l'état de santé du Parisien. Il ne serait pas, selon eux, apte même pour le 8e de finale. Aujourd'hui, Tite était en conférence de presse, le sélectionneur brésilien, et il a dit que concernant les blessures, eh bien, ça progresse, ça s'améliore, le concernant, mais pour l'instant, on est concentré sur le match du Cameroun. On verra après ce qui pourra se passer. Alors, on est parti pour un feuilleton autour de la sélection brésilienne. Est-ce que selon vous, ce feuilleton Neymar va empoisonner la sélection toute la Coupe du Monde? 32-16, appelez-nous pour débattre. Jérôme.
Oui, parce que forcément, c'est le sujet principal quand t'as ton chef d'orchestre qui est blessé comme ça. On attend tous, en effet, que Neymar soit le meilleur joueur du Brésil et permette au Brésil d'aller jusqu'en finale et pourquoi pas de gagner cette Coupe du Monde. Donc, automatiquement, quand il rate un match, là, il s'est blessé sur le premier match, et ça fait des débats. On analyse tout. Il a mis le pied par terre. Elle est encore gonflée. Elle est plus gonflée. Il a mal. Là, il va être forfait sur le troisième match. Bon, ça, on le savait. Il sera certainement forfait, comme tu l'as dit, sur le 8e de finale. Moi, j'attends de voir. J'attends de voir parce que on peut pas tirer des plans sur la comète comme ça, sur une blessure aussi grave qu'elle l'est, sur les chevilles de Neymar. C'est pas la première fois qu'il se blesse à cette cheville. On en a parlé hier, Jean-Louis. C'est cette fameuse cheville qui, malheureusement, avait cédé au Paris Saint-Germain il y a quelques mois.
En 2019.
Il y a une fragilité, mais on n'est pas dans la tête et dans le corps de Neymar. Et on sait pas. Avec ce joueur-là, il faut rester prudent. Moi, je souhaite en effet de le revoir le plus tôt possible sur le terrain parce que ça reste un génie du foot et que quand il est comme il est depuis le début de l'année, moi j'ai envie de voir les artistes sur le terrain. Mmh. Et lui est un artiste et il manque cruellement à ce Brésil. Hein. On l'a vu sur le dernier match, le Brésil n'a pas été flamboyant. Je pense que dans tous les cas, il y aura une gestion contre le Cameroun parce que ils se sont assurés quasiment la première place du groupe. Mais n'empêche que le huitième de finale, on verra l'adversaire. Et moi, je te dis, sur le huitième de finale, par rapport à l'adversaire qu'ils vont rencontrer, s'ils se sentent vraiment au-dessus, je pense qu'il fera peut-être l'impasse, il ne prendra pas de risque. Mais si y a un doute, et ce doute peut être peut-être levé après le match de demain soir contre le Cameroun, je pense que Neymar sera sur le terrain.
Le Brésil qui croise avec le groupe Portugal, Corée du Sud, Ghana, Uruguay. Ce sera le deuxième sans doute de ce groupe-là. Manu, est-ce que si tu es joueur du Brésil, ce dossier Neymar t'empoisonne parce qu'on t'en parle tout le temps, ou est-ce qu'au contraire, tu fais abstraction, tu attends qu'il revienne de blessure et puis tu penses qu'à ta Coupe du Monde?
Lequel Manu?
Ah ouais, lequel
Manu Petit, j'étais pas
mieux là. Ah d'accord, bah nous on a connu la même chose en 98, donc se passer de ton leader technique.
98, il était suspendu. Vous saviez qu'il allait revenir.
Oui, d'accord, mais c'est la même chose. C'est une absence, donc tu dois conjuguer, tu dois faire avec, hein, et tu dois justement faire abstraction du poids que ça peut laisser, le vide que ça peut laisser sur le terrain. Donc à un moment donné, c'est aussi aux joueurs de prendre leur responsabilité. Il peut tout attendre à chaque fois de ton leader, quoi. Je veux dire, Zizou tout seul n'aurait pas pu gagner la Coupe du Monde, et nous sans Zizou on n'aurait pas pu non plus la gagner. Donc quelque part on se dit c'est donnant. Donc bien sûr que c'est handicapant pour le Brésil, et moi sincèrement ça m'embête vraiment parce que quand je vois la saison qu'il réalise depuis le début de saison, je me dis c'est chiant quand même avec tous les blessés qu'on a là avant cette Coupe du Monde, que des joueurs qui nous font bondir dans nos sièges soient pas présents. Mais bon, ceci étant dit, quand je regarde l'effectif du Brésil, je me dis qu'ils peuvent quand même vivre sans Neymar. Après, je connais pas la nature vraiment sur la durée de la blessure de Neymar. Mais si, imaginons qu'ils vont assez loin, je pense qu'il sera opérationnel au moins d'ici une semaine, 10 jours, je pense. Enfin, je sais pas, c'est mon avis. Et derrière, je me dis, quand je regarde l'effectif et la qualité de l'effectif, je me dis qu'ils peuvent jouer sans Neymar un ou deux matchs. Ceci, en plus, quand tu regardes les stats du Brésil depuis des mois, et c'est que des victoires quasiment, hormis la défaite perdue contre l'Argentine en finale de Copa América, c'est quasiment un sans faute avec très peu de buts encaissés. Donc,
ouais, mais le match de la Suisse, Manu, te donne tort là-dessus. On a senti que c'était une équipe qui était moyenne. Un petit peu orpheline de son leader technique, de son grand joueur.
Oui, mais ça c'est la vérité d'un match, Jérôme. Je suis persuadé que, évidemment, c'est un peu comme nous aussi. Quand on a su que Zizou n'était plus avec nous, ça a été compliqué le match de suivant. Mais après, on a intégré le truc, on est passé outre, on a tourné la page. Je suppose également que ça n'a pas fait plaisir à tous les joueurs brésiliens de voir leur leader sortir. En plus, à mon avis, ils doivent être en proximité. Dani Alves doit le mettre dans le coton en permanence du matin au soir. Mais quand tu vois la cheville le jour même, moi je suis coéquipier, je me dis, je pense peut-être qu'on l'a perdu pour toute la compète, quoi, tu vois. Donc à un moment donné, tu l'intègres dans ta tête, tu te dis, voilà, et s'il revient, ça sera la cerise sur le gâteau. Mais oui, intègre dans la tête que tu joues sans lui.
Manu, on est d'accord, je suis d'accord. Et là, je donne la parole à Manu Amoros. Mais Manu, Neymar, par rapport à tout ce qu'il représente au Brésil, par rapport à tout ce qu'il représente dans ce groupe, parce que moi, je veux bien que bien sûr qu'on peut faire la comparaison, vous, à l'époque, en 98, avec Zinedine Zidane. Mm-hmm. Mais je pense que au-delà, et j'ai eu la chance de vivre dans des groupes où Zinedine Zidane y était.
En plus, en sachant que nos attaquants ne marquaient pas.
C'était un leader technique, sans aucun doute. Mais Neymar, c'est plus qu'un leader technique au Brésil. Il fait tout, même la vie du vestiaire, on sent qu'il amène les autres. Il se repose beaucoup sur lui, donc automatiquement, le manque est énorme.
Oui, je suis d'accord, mais c'est pas des peintres à côté de lui quand même. Hein.
Oui, non, des peintres, mais Manu, c'est pas quand même une équipe du Brésil où elle nous régale depuis le début de ce mondial. Je suis désolé, mais si tu as pas deux exploits de Richarlison, contre les Serbes, ils ont fait une première mi-temps très moyenne dans la qualité du football, alors que tu attends toujours du football brésilien que ça parte en fête quelque part sur le terrain. Et là, le joueur principal n'est pas là. C'est celui qui fait le leader technique, la fête sur le terrain, qui provoque, qui fait plein de choses. Et là, tu ne l'as pas. Et il y a personne qui peut prendre ce rôle-là de Neymar. Et c'est pour ça qu'on voit une équipe difficile à voir, parce qu'elle n'est pas bonne techniquement. Et c'est ça qui est le inquiétant là-dessus, si Neymar est absent pendant encore longtemps et jusqu'à presque à la fin de la Coupe du Monde.
Enfin, je sais pas, moi, mais quand je vous écoute, les gars, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'équipes qui réalisent un sans-faute depuis le début de la compétition, alors que même nous, les Français... il y a quand même des choses à dire, mais il y a toutes les nations, que ça soit l'Angleterre, pareil, le match pourri qu'ils ont fait contre les États-Unis.
Raison, Manu,
Donc à un moment donné, moi je vois que simplement les choses, c'est vrai, dans le contenu ils peuvent très bien s'améliorer, mais allez leur marquer un but, les gars. Allez leur marquer un but.
Oui, c'est vrai, t'as raison. Là-dessus, je te rejoins, Manu. On parle souvent.
Et on sait tous que pour gagner une compétition,
il faut être costaud,
surtout derrière.
Ouais. Mais c'est vrai, mais là je te rejoins, c'est collectivement, et on l'a souvent dit, on met en avant, et Manu Amoros, tu le disais, on met en avant la qualité technique des joueurs offensifs, le football samba, et la preuve, c'est que dès qu'on parle du Brésil, on met la musique, on met la samba derrière. Mais avant tout, le Brésil est depuis pas mal de matchs une équipe qui est très solide, qui concède très peu d'occasions, et que peut-être qu'en effet... Et là, ça rejoint à ce que tu disais, Manu. En effet, je pense que s'ils perdent un élément défensif, ça peut être problématique pour cette équipe du Brésil. Alors qu'offensivement, ils ont quand même les moyens. Et ils ont des joueurs de qualité. Hein. On parle de Paqueta. Et Paqueta, même s'il a été moyen sur le dernier match. Mais on parle de...
Vinicius. Rafinha.
Ouais, mais est-ce que c'est un jeu collectif qui te fait aujourd'hui plaisir à voir aujourd'hui le Brésil?
Non.
À l'époque, quand tu disais, il y a un match du Brésil, oh putain, je vais mettre sur mon canapé, à quelle heure je finis de travailler, je vais voir l'équipe du Brésil, elle va m'enchanter. Aujourd'hui, elle ne t'enchante pas.
Je suis d'accord, Manu, mais tu oublies un truc quand même. Tu oublies deux choses qui sont essentielles. La première, c'est que ça fait 20 ans que le Brésil n'a pas gagné la Coupe du Monde. Il y a une énorme pression. Ils ont été avec l'étiquette de favori.
Mais la pression, tout le monde de là,
Manu,
pour être champion. La France, tu crois qu'elle n'a pas la pression de champion du monde. L'Angleterre, pareil. L'Allemagne, t'imagines, l'Allemagne, c'est pareil.
D'accord, mais ces dernières années, on répond présent, non, dans les grands tournois. Les Brésil, non.
Oui, il y a moins d'attente parce qu'on l'a gagné il y a 4 ans.
Exactement.
Allez, on va rester avec le Brésil et on va finalement parler de la Belgique dans une seconde. La Belgique, quand même, éliminée. Roberto Martinez qui annonce son départ. Vous allez nous dire si c'est la fin d'une génération.
Il va prendre le flambeau alors?
Ah, peut-être. On verra.
Allez, à tout de suite. T'as vu quand il peut mettre une mine à tirer?
Bah non, au contraire, je lui souhaite de retrouver un banc avec les fonctions
positives. Il n'écoute pas. Écoute pas la famille 98.
Mais en quoi t'as vu une pique de ma part?
Allez, à tout de suite. Mais Manu, tu tombes dans le piège trop facilement. Allez, à tout de suite.
RMC jusqu'à 20h. Roten sans flamme. Intégrale Coupe du Monde.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h17 sur RMC, c'est toujours dans Roten sans flamme, intégrale Coupe du Monde. On est en direct de Doha avec Jean-Louis Tour. Et oui, en direct de Doha, c'est magnifique, c'est la Coupe du Monde, ça se passe bien. Et puis en plus, on est encore qualifié. Heureusement, le 8e de finale arrive à grands pas. Dimanche soir, on sera là, du moins dimanche dans l'après-midi, Jean-Louis. On sera là contre la Pologne. Oui. Et on va pousser, on sera au stade en direct. En Exactement. Plus, ça va être une chance. On est avec Manu Amoros, avec Manu Petit. Et bien, on continue nos débats. Et là, on va parler de la Belgique.
Oui, et de Lionel Messi à 19h30 dans le ring des supporters. Est-ce qu'en gagnant la Coupe du Monde, Messi deviendra l'égal de Maradona? 32-16 pour débattre. Oui, la Belgique donc éliminée de cette Coupe du Monde dès la phase de poule. La Croatie a fait match nul 0-0 contre la Belgique. Les Belges devaient marquer pour se qualifier. Finalement, ils sont éliminés de ce groupe. Le Maroc termine premier, la Croatie deuxième. Roberto Martinez, le sélectionneur, a donc annoncé qu'il quittait son poste. Thierry Henry a été aperçu en mettant un gros coup de poing au banc de touche, tellement il était énervé par l'élimination. Est-ce que selon vous, cette élimination marque la fin de cette génération qui a fait demi-finale il y a 4 ans de la Coupe du Monde?
Ah, bien sûr que oui. Il y a des joueurs qui ont 35 ans dans ce groupe, donc déjà ceux-là tu vas pas les revoir. Il y a l'animosité entre certains joueurs, donc je pense qu'il faut reconstruire avec une nouvelle génération. Alors garder, tout le monde va pas partir, hein. Attention, garder, il y a des excellents joueurs quand même dans cette équipe, mais quid par exemple du capitaine Eden Hazard, qu'est-ce que tu fais, qui arrive pas à
en
jouer
à 3 minutes de la fin là aujourd'hui?
Oui, mais de toute façon il est sur le déclin Eden, et pourtant il est pas si vieux que ça. Mais malheureusement, il n'arrive pas à récupérer son niveau. C'est normal quand tu joues pas en club. Est-ce qu'il arrivera à se relancer quelque part? Je lui souhaite. Mais en tout cas, lui est pas indigne d'une sélection nationale aujourd'hui. Et une sélection comme la Belgique se doit d'avoir un capitaine qui est d'une valeur sûre et qui pousse les autres. Là, c'était l'inverse. Donc non, cette équipe est en construction. Moi, j'ai toujours eu des doutes sur Martinez. Là, ça se confirme, même à la Coupe du Monde 2018. Alors certains avaient dit oui, c'est le seum, c'est ceci, cela, mais je trouve qu'il avait une génération dorée, vraiment, avec des joueurs incroyables. Il a jamais réussi à faire vivre ce groupe, parce que il y a le côté technico-tactique, et ça, moi, je vais pas trop le juger là-dessus. En sélection, c'est toujours compliqué, c'est pas comme un entraîneur de club où t'as une équipe au quotidien. Là, il faut bricoler par moment. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une ambiance à mettre au sein d'une sélection. La Manu Amoros et Manu Petit, ils sont bien placés pour le savoir. Quand tu gagnes des titres avec ta sélection nationale, c'est automatiquement que le sélectionneur a été fort dans le don de soi, dans le les liens, dans la préparation.
Là, il a failli.
Et lui, il a failli. Ouais. Ben oui, mais quand t'entends, Jean-Louis, je suis désolé, quand t'entends des joueurs qui s'adressent pas la parole et qui sont deux joueurs leaders, que ça soit Kevin De Bruyne ou Courtois, mais comment tu peux pas régler le problème? Comment tu peux laisser vivre comme ça? Automatiquement, quand c'est dur sur le terrain, tu lui reproches à lui, c'est la faute d'un tel, c'est la faute de ceci. Il y a trop de on-dit dans cette équipe. C'est pour ça que je te dis, allez, tout le monde, on repart à zéro. Et je souhaite qu'au prochain sélectionneur, pourquoi pas, comme tu le disais, Manu, que ça soit Thierry Henry.
Après, mais ils ont aussi été en difficulté par l'absence de Lukaku aussi, leur joueur phare qui a presque pas joué de cette Coupe du Monde et qui est une entrée très difficile là contre la Croatie.
Le problème qu'il y a aussi, c'est que les joueurs, ils peuvent se prendre en charge quand même pendant une Coupe du Monde, même si il y a des gros problèmes entre eux, que ce soit dans les vestiaires ou qu'on prend des joueurs qui sont en méforme. Je crois qu'il faut être soudé pour un objectif de sélection, pour aller jusqu'au bout. Et là, ils ne le font pas. On a vu les deux matchs catastrophiques qu'ils ont fait où il n'y a rien eu. Rien. Que ce soit technique ou physique, il n'y a rien eu. On espérait davantage de cette équipe de Belgique. Même si tu as des joueurs un peu plus vieux, je crois qu'il faut les mettre dans les meilleures conditions. Et quand tu prends des joueurs qui sont méfants comme Hazard, c'est pas un bon signe que tu donnes aux joueurs et à la Belgique.
Oui, mais Manu, il y avait quand même des prémices à cet échec-là de la Belgique. Les matchs d'avant, la Coupe du Monde, n'avaient pas été rassurants.
Jérôme, c'est facile de parler maintenant, parce qu'ils sont éliminés. Mais eux, ils ne pensaient pas qu'il y avait... c'était... Oui et non, parce qu'ils ont fait quand même des bonnes qualifications pour la Coupe du Monde, quand même.
Oui, bon,
donc après, s'ils sont là, ils sont qualifiés. Donc
aujourd'hui, Manu, je vais pas te faire, on va pas se voiler la face. Aujourd'hui, se qualifier pour la Coupe du Monde quand une nation comme la Belgique, c'est une anomalie si tu ne l'es pas. Si tu ne te qualifies pas, c'est quand même beaucoup plus élargi aujourd'hui. Par exemple, ce qui arrive à l'Italie, c'est pas possible. Tu vois, tu peux pas.
C'est catastrophique.
C'est catastrophique. La Belgique est passée sur les qualifs, ok, mais les matchs d'avant ont montré qu'il y avait des limites au sein de ce groupe.
Des prémices de problèmes internes.
Et tu le sais parce que tu l'as vécu. La compétition, elle est courte. Si tu rates ton premier match et que le deuxième tu te mets en difficulté, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, il ressort que les problèmes d'un tel et d'un tel, les interviews de certains qui ont été faits il y a un mois ou il y a deux mois, et ça tu reviens pas en arrière.
Allez, on reste là sur la Belgique.
Moi, ce que je voulais te dire par là, c'est que moi, j'ai connu ces problèmes-là en 82, si tu t'en rappelles. Mais chacun a été intelligent et mettre ses problèmes de côté et se mettre à disposition du sélectionneur et de l'équipe de France.
C'est pas une question de qualité côté belge. Je crois que la qualité, elle est moins importante que sur les dernières années. Surtout, c'est une question de vieillesse et d'ego. Il y a des joueurs qui s'aiment pas dans cette équipe. Ça se voit, ça se transpire sur le terrain, dans leur langage corporel, mais même après dans la communication avec la presse. Et puis le côté vieillissant de cette équipe. Quand tu prends l'équipe d'aujourd'hui, le 3-4-3 qu'a mis en place Martinez, regardez l'axe. De derrière jusqu'à devant, tu as Martins, 35 ans, Witzel, qui s'est pas foutu de gagner un duel durant tout le tournoi, 33 ans, et tu as Alderweireld qui a 33 ans également. Mais c'est une Coupe du Monde, les gars. Et aujourd'hui, dans le football moderne, les gens, ils galopent.
Allez, on arrête là sur la Belgique.
C'est ça le problème. Ils se rejettent tous la faute, il n'y en a pas un qui prend sa responsabilité.
Ouais, c'est Thierry Henry va remettre de l'ordre dans tout ça. Ouais, parce qu'on a mes sélectionneurs. Dans une seconde, Messi.
Allez, go, Titi, c'est le moment. Montre à Manu que t'es un bon coach.
Est-ce qu'il viendra l'égal de Maradona? À tout de suite.
RMC jusqu'à 20h. Roten sans flamme. Intégrale Coupe du Monde.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h27 sur RMC, toujours dans Roten sans flamme, intégrale Coupe du Monde. On est à 15-20 minutes de la fin de l'émission. Et puis après, on laisse la place à l'after avec ces deux matchs encore. Oui, deux matchs où on va connaître les affiches des huitièmes de finale. Encore, on est avec Jean-Louis Tour, avec Manu Amoros et Manu Petit. Jean-Louis, on continue avec un ring des supporters maintenant.
Et on ira juste après sur Costa Rica, Allemagne et Japon, Espagne, le dénouement du groupe E, coup d'envoi des matchs à 20h. On aura les infos principales des compos. Mais tout de suite, Messi Maradona.
RMC. Roten sans flamme.
Le ring des supporters.
Oui, parce qu'hier, l'Argentine a sorti un gros match face à la Pologne. L'Argentine monte en puissance. Et Lionel Messi est devenu hier l'Argentin comptant le plus de matchs avec la sélection en Coupe du Monde devant Diego Maradona. Diego serait super heureux pour moi, a dit Messi après le match. J'ai appris cette stat, je ne savais pas. C'est un bonheur de pouvoir continuer à atteindre ce genre de record. Je crois que Diego serait super heureux pour moi parce qu'il m'a toujours témoigné beaucoup d'affection. Il était toujours content quand les choses marchait bien pour moi. Alors, Messi, donc on élargit la question, hein, au-delà de ce record, s'il gagne la Coupe du Monde, s'il arrive à mener l'Argentine à la victoire, est-ce qu'il deviendrait l'égal de Maradona? David est avec nous pour monter sur le ring des supporters. Salut David.
Salut David.
Bonsoir.
Salut David. Bienvenue David.
Merci, alors, merci beaucoup.
Qu'est-ce que tu penses de
la réflexion? Est-ce que la question se pose ou pas pour toi?
Alors, à mon sens, évidemment, la question ne se pose pas. La question tourne finalement autour d'un seul thème, c'est est-ce qu'on aime le foot en comptable ou en passionné, romantique et amoureux. Ce qui fait aujourd'hui que Diego, pour moi, est inaccessible, non seulement en Argentine, mais dans le monde, ça n'a rien à voir avec des chiffres. La discussion sur les plus grands, vous la connaissez, Pelé, Cruyff, Zidane, Messi, Garrincha, Puskás. D'ailleurs, souvent, c'est une affaire de génération et d'émotion qu'on a ressenti quand on était plus jeune. Mais en fait, ce qui fait d'un joueur une légende, c'est non seulement ce qu'il écrit sur un terrain. Et là-dessus, quel joueur a gagné tout seul une Coupe du Monde? Quel joueur, alors, au sommet, est allé signer dans un club d'une ville pauvre qui n'avait jamais rien gagné et en a fait un champion d'Italie, qui était un championnat, et vous êtes tous d'accord pour le reconnaître, extrêmement difficile à l'époque. Mais c'est aussi tout ce qu'il représente en dehors du foot. Diego, c'est un mythe, une légende. Mais si on peut le comparer au plus grand joueur de foot de l'histoire, c'est évident. Regarde son palmarès, et quoi que son palmarès devienne. Mais Diego, on le compare non seulement au footballeur, mais à mon sens, on le compare aussi à Mozart, aux Beatles, aux Pistols, à Che Guevara, ce que vous voulez. Vous verrez même. Alors, je viens de sortir. J'en parlerai un peu après. Je viens de sortir un livre sur le foot qui s'appelle D'un football l'autre, où je parle de beaucoup de foot, de culture foot, etc. Et je me hasarde même un petit parallèle entre Maradona et la plus grande star de l'histoire, Jésus himself. Un truc assez rigolo. Donc, en fait, à mon sens, Messi peut gagner 27 coupes du monde. Il n'égalera jamais le mythe, Diego, la légende,
David.
Un homme blessé, abîmé. Et ce que je dis souvent, d'ailleurs, c'est que s'il était mort en 87, après avoir remporté une Coupe du Monde et un Scudetto incroyable, il n'aurait pas fait tâche, vous savez, dans la fameuse liste des 27 avec Kurt Cobain, Hendrix, Brian Jones, Morrison,
un type qui parce que c'était une rockstar, bien sûr.
Il est
David, écoute, merci pour ton point de vue. Est-ce que tout le monde le partage, l'avis de David?
Non, mais oui, parce que du moins, je te dis oui, parce que Maradona, moi, à mes yeux, mais je vais te parler juste du football. Moi, j'en ai rien à faire du reste. Bien sûr que niveau footballistique, s'il gagne la Coupe du Monde, c'est l'égal de Maradona. Il aura porté ce pays à la plus belle des récompenses. Il l'a déjà fait avec la Copa América. Il faut se souvenir quand même de l'importance qu'il a eue. Et je pense que c'est pas anodin. Mais il veut absolument gagner cette Coupe du Monde. Et ce serait une formidable récompense. Déjà pour son pays, mais surtout pour lui, par rapport à sa carrière qui est incroyable, à Léo Messi. Alors oui, moi je fais partie de ceux qui ont été très critiques sur lui depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Mais en sélection, c'est autre chose. Et moi, il a tout mon respect. Et moi, je lui souhaite en effet de vivre son rêve jusqu'au bout. Et pourquoi pas de la gagner. Alors ça serait au détriment de l'équipe de France, parce que je préfère que ça soit la France, mais quitte à choisir, si c'est pas la France, bah Léo Messi ou Cristiano Ronaldo, parce que ces deux joueurs là au niveau footballistique, c'est incroyable ce qu'ils ont fait depuis X années. C'est la constance, la régularité, et automatiquement, si on parle que du sportif, bah oui, c'est l'égal du plus grand joueur peut-être de tous les temps de l'Argentine.
Vous êtes d'accord avec Jérôme, Manu, les deux Manu?
Pas trop, moi.
Ouais, moi non aussi, pas trop, dans la mesure où les époques sont pas les mêmes. Est-ce que la question elle est simplement axée sur le sportif ou d'une façon générale?
Non, moi je.
Chacun place sa question où il veut.
Jérôme, je l'ai axé sur le sportif, c'est pour ça.
C'est général.
Si tu fais plus général, bien sûr que c'est pas l'égal de Maradona, et là je vais vous rejoindre.
Non, parce que Maradona, on l'aime autant qu'au football, mais toutes les frasques qu'il y a eu derrière aussi, on fait la popularité.
Charismatique. Maradona, ah, il parle à toutes les tranches sociales de l'Argentine.
Mais là, bien sûr. Ouais, mais peut-être pas.
Mais restez. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir votre regard sur le foot, sportif.
Bah, sur le sportif, s'il gagne la Coupe du Monde, parce que je pense que Messi, par rapport justement au foot d'aujourd'hui, qui n'a rien à voir avec le foot d'avant, la régularité
dans
les pertes. Non, je veux dire, mais moi, même nous à notre époque. Hein. Tu vois ce que je veux dire.
Ah oui, c'est sûr que c'est notre époque. Ouais.
Tu vois ce que je veux dire, Manu. La multiplication des matchs, la pression de la presse, aujourd'hui, c'est incroyable la régularité dans les performances au plus haut niveau. Et fort heureusement qu'il y avait Cristiano Ronaldo sur les 15 derniers pour voir cette rivalité, ce duo. Mais quelque part, je me dis, c'est gigantesque qu'a fait Messi. S'il gagne la Coupe du Monde, il sera bien devant Maradona sur le plan sportif, pour moi en tout cas.
Oui, mais je crois que Maradona avait la même pression que Messi a aujourd'hui, parce qu'il était tellement populaire que les journaux, la télé, les sponsors, les gens, tout était comme aujourd'hui avec Messi. C'était pas un joueur quelconque, c'était un joueur qui est complètement à part et qui avait peut-être besoin aussi de tout ça pour pouvoir s'exprimer sur le terrain et de bien être.
Je suis d'accord, mais Messi, lui, il a pas recours à certains trucs pour pouvoir supporter la pression. Mais évidemment, c'est pour pouvoir supporter la pression.
T'en sais rien.
Tous les contrôles qu'ils ont, c'est pas possible.
On avait des contrôles aussi à l'époque. Ça veut dire qu'à l'époque, on avait des contrôles, mais ça passait à travers le filet, c'est ça?
Je sais pas si c'était de l'urine, non.
Et si vous voulez revoir Argentine-Australie, ce sera le huitième de finale face à cette équipe australienne pour Messi.
Exactement.
Le 3, samedi à 20h. David, merci beaucoup.
Merci David.
Redis-nous ton livre.
Salut David.
Fais ta promo.
Fais un peu de pub pour ton livre. Dernière chose, si je peux intervenir. Déjà, Messi, je pense qu'il a jamais pris de drogue pour améliorer ses performances.
Voilà, c'est ce qu'on vient de dire.
Deuxième chose, effectivement, et Jérôme, juste un truc, mon livre qui est sorti est préfacé par Pierre Cangioni, que je vois demain. Est-ce que tu veux que je lui demande de te dédicacer un exemplaire, que je t'envoie, parce que je suis sûr que ça lui ferait plaisir, et j'imagine, vu qu'on a à peu près le même âge, te ferait plaisir.
Bien sûr, avec plaisir, David.
Voilà, donc je vois Pierre.
Mais Messi, il n'a pas pris des hormones de croissance.
Non, les hormones, on s'en fout. Le truc, c'est qu'il faut lire aussi, d'ailleurs, le livre de Fernando Signorini sur le préparateur physique de Maradona. Préfacé par Roustan, celui-là.
Moi je suis journaliste sportif, on est avec des anciens joueurs, on va pas lire autant de livres non plus.
Envoie-moi le tien là, et après on verra.
Il est en train de nous donner des devoirs celui-là.
Puis nous on est anciens joueurs, on n'a pas l'habitude de lire.
Je vais mettre deux
merci
ans à
David.
Lire.
David, bientôt.
Salut David. Et mets beaucoup de photos. J'aime bien les photos.
Allez, dans une seconde, les avant-matchs pour le dénouement du groupe de l'Allemagne et de l'Espagne, Costa Rica, Allemagne et Japon, Espagne. À tout de suite.
RMC jusqu'à 20h. Roten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h37 sur RMC, toujours dans Roten sans flamme, intégrale Coupe du Monde. On finit les deux heures de l'émission avec encore des bons thèmes, des bons débats. Et surtout, on va lancer les matchs, les deux matchs du soir. Encore, on va connaître une affiche ce soir après aux alentours de 22h en France, minuit ici à Doha. On est avec Jean-Louis Tour, on est avec Manu Petit et on est avec Manu Amoros. On continue, Jean-Louis.
Allez. Ouais, juste avant les paris, on va aller sur les stades où nous sommes ce soir pour ces deux matchs de 20h, le dénouement du groupe E, Costa Rica, Allemagne et Japon, Espagne. On va commencer par Japon, Espagne avec Florent Germain, les infos principales des compos. Salut Flo!
Salut Jean-Louis, salut messieurs, salut à tous. Salut. Du côté de l'Espagne, on ne fait pas trop tourner finalement. Busquets par exemple, qui est sous la menace d'un carton jaune, est titulaire. C'est le milieu de terrain du Barça avec Gavi et Pedri. Et le trio offensif, ce sera Dani Olmo, Alvaro Morata et une petite surprise, Nico Williams, qui aura du temps de jeu du côté du Japon. C'est un 3-4-3 avec le trio offensif composé de Kubo, Maeda et Daichi Kamada.
Ok, on va faire le point aussi sur les infos de la compo de Costa Rica Allemagne avec Timothée Mémon. Salut Timothée.
Salut à tous.
Salut Timothée. Oui, Timothée. Allons-y, Timothée.
Allez. Ouais, alors sur les compositions, il y a un seul changement dans la composition de l'équipe allemande par rapport au dernier match. C'est le roi Sané qui prend la place de Thilo Kehrer avec un Joshua Kimmich qui va glisser arrière droit dans cette défense à 4. Choix donc offensif pour Hansi Flick avec devant eh bien le roi Sané, Jamal Musiala, Serge Gnabry et Thomas Müller à la pointe de l'attaque. Il y aura 7 joueurs du Bayern Munich sur le 11 des Allemands. Et puis du côté du Costa Rica, à qui un match nul pourrait suffire hein, pour se qualifier pour la suite de la compétition si l'Espagne bat le Japon, eh bien on restera avec cette défense à 5 avec 3 changements par rapport au match précédent. Vargas remplace Calvo qui avait pris un carton rouge, Aguilera remplace Torres et Venegas remplace Contreras à la pointe de l'attaque.
Alors messieurs, on rappelle la situation dans ce groupe. Donc l'Espagne est en tête avec 4 points, le Japon 2e avec 3 points, le Costa Rica 3e, 3 points également, et l'Allemagne 4e avec 1 point. Si l'Allemagne gagne, ce sera bon pour les Allemands. Voilà, grosso modo, hein, y a des cas très précis hein, qui pourraient empêcher, mais bon, c'est des trucs assez improbables. Si l'Allemagne gagne, ça passe. C'est mieux avec plus d'un but d'écart. Voilà. Ouais. Ça fait que l'Allemagne passerait même en cas de match nul entre le Japon et l'Espagne. Pour le reste, on rentrera dans les détails dans la soirée. L'Espagne, si elle gagne, finit en tête du groupe. C'est aussi ce qu'on peut retenir.
Ouais, si l'Espagne gagne, en toute logique, je pense qu'ils vont pas gérer les Espagnols et que, en toute logique, ils vont gagner contre le Japon. Et après, bah, le Costa Rica, s'ils font match nul, c'est le Costa Rica, c'est incroyable, hein, qui pourrait se qualifier alors qu'ils en ont pris 7 sur le premier match. Donc,
exactement.
Ce serait hallucinant.
Exactement. Manu Petit, comment tu vois ce dénouement? Est-ce que tu vois les Allemands capables de enfin gagner un match dans cette Coupe du Monde et de se relancer complètement par rapport aux deux premiers matchs? Est-ce que tu les vois capables de le faire là?
Je pense, parce que ils ont maintenu l'espoir sur le deuxième match. Ils jouaient gros contre l'Espagne, les gars. Rappelez-vous quand même, hein, parce que une défaite, c'était quasiment les carottes étaient cuites. Donc
Ils étaient éliminés, ouais.
Exactement. Donc là, ils ont traversé, pour moi, l'orage, quoi, les éclairs. Donc, je pense que les turbulences sont un peu derrière. Donc, oui, je miserai sur l'Allemagne, oui.
Et on va quand même parler de l'Espagne avec le plus espagnol d'entre vous, Manu Amoros.
Ouais.
Donc, comment tu vois cette équipe d'Espagne, Manu? On avait cette impression énorme après le premier match. On s'est dit, c'est l'équipe du mondial, un jeu magnifique. Bon, on va pas dire qu'ils ont perdu leur jeu contre l'Allemagne. Mais est-ce que t'as un petit doute sur cette équipe? Ah, ils t'ont déçu, ouais.
Enfin, ils ont déçu au niveau de la qualité du jeu. C'est un peu normal aussi. Exactement. Quand on rencontre des équipes européennes et comme une équipe comme l'Allemagne qui était bien organisée et qui avait bien lu le jeu espagnol. Après, contre le Japon, je pense que le Japon va souffrir dans un collectif bien huilé, fait de passes en permanence. Il risque de battre le record de passes ce soir.
Ouais. Après, je te trouve dur.
Ils en ont fini le premier match, ils en ont fini.
Non, mais je te trouve dur avec l'Espagne sur le match de l'Allemagne parce que déjà ils avaient à confirmer leur très belle victoire du premier match et puis quand même jusqu'à la
70e minute, ils ont eu beaucoup de déchets techniques. Ils ont quand même eu beaucoup de déchets techniques qu'ils n'ont pas eu au premier match. Et ça se comprend contre le Costa Rica qui n'est pas non plus une nation très importante, une petite nation quand même, un petit pays. Contre l'Allemagne, ils ont souffert et ils ont souffert techniquement. Ils ont fait beaucoup d'erreurs techniques et c'est pas habituel de les voir.
Moi, écoute, je vais te dire, moi le sentiment que j'ai ici, c'est que et puis j'ai parlé à beaucoup de monde, il y a des jeunes joueurs, ils sont en train de se développer, et puis surtout tout le monde est unanime pour les gens qui ont côtoyé Luis Enrique, tout le monde m'a dit c'est un super entraîneur. Et je pense que vraiment, c'est une valeur ajoutée pour cette équipe espagnole.
Très bien.
Non, mais ça, oui, mais il n'y a pas de problème. Mais ça n'empêche pas que des joueurs, c'est des êtres humains, ils peuvent manquer après, aussi si des contrôles, des passes, des tirs, des occasions, et ainsi de suite.
Allez, on va parier sur ces rencontres.
Allez, on va parier. Allez, go.
RMC, l'after sans flamme.
Johan Bredov est avec nous, notre expert en Paris sportif. Rebonsoir Johan.
Rebonsoir Jean-Louis, bonsoir.
Salut
à tous.
Johan. Pour salut représenter Johan. Roten sans flamme, Jérôme Roten. Pour représenter l'after, Kevin Diaz nous rejoint. Salut Kevin.
Salut Jérôme, salut Jean-Louis, salut à tous.
Salut Kevin.
Salut. Allons-y Johan.
Alors on y va. Allez. Sur Costa Rica, Allemagne, c'est 25 la victoire du Costa Rica, 12 le match nul, 1,10 la victoire de l'Allemagne. Vous l'avez dit, l'Allemagne qui doit absolument l'emporter hein, pour se qualifier. Et là, je vais aller sur les écarts, messieurs. Au moins 3 buts d'écart, c'est seulement 1,78. Donc je rajouterai à ça les buts de Sané et de Gnabry pour une cote à 4,70. Qu'est-ce que vous voulez jouer, messieurs, sur cette rencontre?
Müller.
Ah, quand même. Ah bah oui, forcément le but de Müller, 2,35.
Qui a dit Müller?
Moi. C'est Manu Petit qui l'a dit.
Bon, Kevin, qu'est-ce que tu joues, toi?
Moi, je vais jouer... franchement, les buteurs, c'est compliqué, mais je vais jouer le score exact. Pourquoi pas 3-0 pour l'Allemagne?
Eh bah, ben, ça, c'est coté à 5,30. Ouais, c'est pas mal.
D'accord. Écoute, moi, je vous voyez beau, les Allemands. Tant mieux pour vous. Moi,
bah, évidemment.
Je pense que ça va être plus serré que ça. Alors, on ne dit pas que le Costa Rica va gagner. Mais je pense que le Costa Rica, en plus, avec un match nul, ça fait qu'ils se qualifient. Donc, ça va être dur. Première mi-temps, match nul.
Ok, 3,20 déjà.
Et victoire des Allemands en deuxième.
Et bien, 3,95. Voilà, le nul à la mi-temps, la victoire de l'Allemagne.
C'est cadeau. Allez, c'est offert.
Tout ça est noté. On vérifiera demain. rmcsport.fr pour tous les conseils de la Dream Team.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Dans une seconde, coup d'envoi, entrée des équipes, hymne de Costa Rica, Allemagne et Japon, Espagne, le dénouement du groupe E. Et on sera de retour demain, Jérôme.
Écoute, on sera de retour demain. Merci encore une fois de votre fidélité. On se donne rendez-vous demain pour encore des débriefs. On est magnifique, c'est la Coupe du Monde. C'est Rotten sans flamme, spécial Coupe du Monde avec Jean-Louis Tour. Merci à Jean-Louis, merci à Manu Amoros et merci à Manu Petit. Bisous à tous, bonne soirée et bon match.
Retrouvez Rotten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.
RMC Football. Samedi à 15h au Stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine, samedi à Montpellier avec RMC.